Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je prends plaisir, comme toujours, à vous souhaiter la bienvenue à Marcher vers le bien-être. Nous poursuivons aujourd'hui notre série d'entretiens dans le cadre de notre collaboration privilégiée avec la chaire d'excellence en recherche du Canada, une seule santé urbaine à l'Université de Montréal. En ouverture d'épisode, je reçois Noémie Ariette, coordonnatrice principale de la chaire. J'aborde avec elle, entre autres sujets, celui de la connectivité en marchant et l'implication de la communauté dans la réalisation de nombreuses initiatives de la chaire portant sur la santé d'une ville. Je m'entretiens également avec Yves Terra, un scientifique des données numériques et membre du Consortium en santé numérique. Yves nous parle notamment des bienfaits et aussi des dérives possibles des montres connectées et autres appareils semblables. Et pour clore notre épisode, Michel Cousinat-Baudet nous présente sa chronique « Le corps en marche », au cours de laquelle elle fait l'éloge de la marche lente. Et voilà, à tout de suite pour notre premier entretien. Nous sommes en compagnie de Noémie Ariette, coordonnatrice principale à la chaire d'excellence en recherche du Canada, une seule santé urbaine. Bonjour, bonjour Noémie.
Bonjour Denis.
Noémie, il me semble que jusqu'au milieu du 20e siècle environ, alors que la voiture n'avait pas l'emprise qu'elle a aujourd'hui, la marche faisait partie du quotidien des citadins, dont vous et moi.
Exactement.
J'aimerais que vous nous racontiez votre jeunesse, pour ainsi dire. C'était à Bordeaux, je pense, et la place que la marche prenait dans votre vie de tous les jours.
Oui, moi j'ai grandi à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Et je me rappelle qu'on allait à l'école ensemble avec un de mes amis qui habitait à côté de chez moi et ma sœur. Et c'était vraiment un bon moment parce que je pense qu'on marchait une quinzaine de minutes. Je ne sais pas quelle était la distance, mais c'était vraiment notre rituel d'aller à l'école ensemble, de revenir de l'école ensemble. Et j'avais, je pense, une dizaine d'années. Et c'est vraiment des très bons souvenirs. C'était un petit moment de calme, de fun, quand on revenait de l'école, entre l'école et la maison, avant de faire ses devoirs, tout ça. Donc déjà très jeune, je marchais, mais c'était aussi une petite ville. Et on n'avait rien à craindre, on avait l'impression.
Mmh, oui, et puis vous marchiez, à part l'école, pour aller, vous amusez un peu partout en ville.
Oui, puis j'avais tous mes amis qui vivaient à côté de chez moi, donc on n'avait pas grand chose à faire. On se retrouvait les uns les autres et on marchait dans la ville, puis on allait d'un endroit à un autre, d'un banc à un autre surtout. Mais c'était vraiment des moments de fun parce que on était ensemble, on rigolait et puis on discutait. Et puis même en grandissant, il y avait les transports en commun. Mais la plupart des choses, on les faisait à pied parce qu'on habitait tous dans le même quartier et c'était la même communauté. C'était vraiment toujours des très bons moments et des vraiment gros moments de rigolade. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de souvenirs où on rigolait, mais on partageait beaucoup parce qu'on était entre nous.
On était entre nous et on s'amusait, on était dans le moment présent.
Exactement.
On vivait une expérience.
Oui, c'est ça, parce que on n'avait pas de téléphone cellulaire encore quand j'avais, avant que j'ai 20 ans. Et on était vraiment, le moment de se retrouver, c'est de marcher chez l'un, de marcher chez l'autre. Et puis on passait des vrais moments dans l'instant présent, effectivement, où on discutait, où on rigolait. On n'était pas parasité par quoi que ce soit aussi parce qu'on n'avait pas de moyen d'être parasité.
Mm-hmm. Oui, oui. Donc, c'est un peu la même chose à Ottawa lorsque j'étais jeune. C'est marcher pour aller à l'école, marcher pour les emplettes, marcher pour aller voir les amis, aller s'amuser dans les parcs. Et la vie, c'était la marche ou la marche, c'était la vie. Vraiment indissociable les deux.
C'est ça. On était obligés de marcher, je pense, mais on ne se posait pas vraiment la question est-ce que ça nous plaisait, ça ne nous plaisait pas. On le faisait, on avait un bon moment puisque quitte à être ensemble, autant s'amuser.
Mm-hmm. On parlait au premier épisode avec Martin Trépanier, qui est professeur titulaire au département de mathématiques et de génie industriel à Polytechnique Montréal. Donc, notre discussion portait autour de l'accélération d'évolution au sujet ou quant à la voiture, surtout au la deuxième partie du 20e siècle, en fait. Et c'est à ce moment-là que la voiture devient le transport privilégié, le mode de transport privilégié. Et c'est au même moment, à cause ou grâce à la voiture, qu'on voit l'étalement urbain, la création de banlieues. Et c'est aussi à cause, j'imagine, de l'acquisition facile d'une voiture, le crédit, et ainsi de suite. Et le tout a changé pour la marche en ville.
Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant de parler de la voiture, puisque quand j'étais petite, je marchais beaucoup. Mais dès que j'ai eu 18 ans et l'âge d'avoir une voiture, la voiture a été vraiment une libération pour sortir de la ville, de cette petite bourgade de banlieue, justement, et accéder à la grande ville qui était Bordeaux, qui était à côté. Et quand j'y réfléchis maintenant, avec un autre regard, tout commençait progressivement à être pensé pour la voiture. Effectivement, c'est plus compliqué de marcher, c'est plus compliqué de se déplacer. Moi, j'habite à Montréal depuis 5 ans et c'est vraiment pas déjà les mêmes villes qu'en Europe, mais c'est aussi, tous les quartiers sont pas faciles pour marcher. Et je me dis, si ma fille devait aller à l'école aujourd'hui toute seule, est-ce que je la laisserais faire le trajet avec autant d'aisance que ce que mes parents me laissaient faire quand j'étais petite, puisque il y avait moins de risques, j'ai l'impression, relatifs aux voitures quand on était enfant.
Oui. La réponse, c'est quoi?
Je pense que...
On y parle, on y songe.
Là, elle a 2 ans, donc c'est sûr qu'elle n'ira pas toute seule à l'école. Oui. Mais peut-être plus tard, je me dis, ils vont grandir, les enfants, aussi dans un autre contexte où ils vont appréhender les risques différemment, comme nous, on appréhendait des risques qui n'étaient pas les mêmes. Oui. Mais il y a aussi des initiatives à Montréal qui réfléchissent différemment les villes, qui réfléchissent différemment... les rues, surtout. Donc, ça laisse un petit peu plus d'espace aux enfants, comme certains projets, justement, de la chaire et qui pourront être développés prochainement par des collègues.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que la marche a quand même sa place? Il y a eu évolution de la marche, du concept de la marche. Elle est peut-être devenue un peu plus sportive, un peu plus de récréation. On parle de randonnée, on parle de jogging. Et en France, on parle de grandes randonnées, les circuits, les Volksmarsch en Allemagne, en Suisse, en Autriche et tout. Donc, c'est devenu quand même une autre vocation de la marche.
Ben oui, c'est intéressant parce que ce qui était avant un moyen de se déplacer, un petit peu une obligation, quelque chose qu'on ne réfléchissait pas forcément, aujourd'hui c'est une activité complète. Ma mère, par exemple, qui n'a jamais fait de sport de sa vie, elle s'est mise à 55 ans à la marche nordique avec des bâtons.
Ah oui, 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 oui.
Et ça a révolutionné sa vie parce qu'on lui a dit qu'en gros, la marche, c'était du sport et elle marchait déjà. Mais là, elle avait réussi à allier quelque chose qu'elle détestait, le sport, et quelque chose qu'elle aimait bien, finalement, la marche. Et effectivement, c'est un vrai sport. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'il... Pour moi, la marche, ça a un côté contemplatif, détente, que ça devienne une performance. C'est aussi assez paradoxal de se dire qu'on fait des marches sportives. Là, pour moi, marcher, c'est plus quelque chose qu'on fait le dimanche en famille pour flâner. Je comprends cette nouvelle démarche... de marche sportive, je trouve ça très intéressant, mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi le côté convivial, le côté accessible et le côté sympathique d'une bonne marche digestive, par exemple. En France, on adore manger, et dans ma famille, après un gros repas, on allait toujours prendre une marche pour digérer, parce qu'on n'était pas capable de faire autre chose comme prouesse sportive, mais parce qu'aussi il y a ce côté vraiment accessible à tous pour la marche, que ce soit les personnes plus âgées que les enfants, on peut marcher tous ensemble parce qu'il n'y a pas de rythme à respecter ou quoi, et qu'on s'amuse finalement.
Oui, et j'aimerais qu'on revienne justement aux médias sociaux, parce que c'est un souci que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'avec ces médias sociaux, et je le vois tellement dans le métro, par exemple, ce matin même, comme tous les matins, je pense que 9 personnes sur 10 consultent les iPhones ou les téléphones intelligents. Et c'est une occasion de réfléchir, de se détendre qui nous échappe.
C'est ça. Mais c'est exactement ça. Je me rends compte que des fois, je pars faire un petit trajet à pied et si j'ai pas mes écouteurs sur moi, j'ai comme un vent de panique d'un coup de me dire « Oh là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être seule avec moi-même. quelle horreur. Non, c'est vraiment, et justement, ces moments où on fait rien, on n'en a plus dans nos vies. Moi, je prenais beaucoup le train avant et j'avais vraiment des moments où je faisais rien du tout parce que j'étais bloquée dans le transport. Et j'adorais ces moments parce qu'on est contraint d'être oisif peu. Et c'est un peu ce que je retrouve dans la marche. On marche, c'est un temps utile, donc il n'y a pas de culpabilité à ne rien faire. Mais c'est aussi un temps où c'est bien de pas avoir de podcast, de pas avoir de musique, de pas avoir de stimulation, si ce n'est la stimulation de ce qu'on a autour de nous, d'être un petit peu plus dans le moment présent et d'être un petit peu plus conscient de ce qui se passe aussi, puisqu'on est toujours dans cette occupation de l'esprit. Il faut écouter le dernier podcast qu'on n'a pas eu le temps d'écouter, il faut écouter cette chanson. Il y a même des livres audio, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve ça à la fois génial et à la fois ça me questionne, parce que maintenant, on ne se pose plus, on ne s'assoit plus pour lire. On peut juste écouter un livre audio en même temps qu'on fait autre chose. Et c'est un peu la même chose pour la marche. Il y a un côté contemplatif, un côté je marche, je regarde autour de moi, je profite de mon environnement. Mais si mon esprit est ailleurs, je ne suis pas là en train de profiter. Donc, qu'est-ce que ça révèle sur moi ou sur ma société ou peut-être sur mon espace mental aussi? C'est ce qui me questionne des fois. Et je trouve que les moments où je vais le mieux, c'est les moments où j'écoute moins de choses en marchant.
Ou pas du tout.
Ouais, exactement.
Les bruits de la nature. Par contre, il y a des gens qui pourraient dire que les médias sociaux en marchant, ça nous permet de socialiser davantage, de garder le contact et, comme vous disiez, de se renseigner, de s'instruire même.
Oui, oui, après... Oui, effectivement. Des fois, on peut téléphoner, on peut garder le contact avec des gens en même temps qu'on marche. C'est comme s'ils étaient avec nous. Mais encore une fois, c'est... Moi, je donne mon avis, mais c'est ce que les gens recherchent aussi dans une marche. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on va marcher... Après, si on marche au parc ou si on marche en pleine ville, on n'a pas les mêmes attentes, peut-être. Mais pour se reconnecter un petit peu à la nature, profiter et vider son esprit. Parce que j'ai l'impression que dans notre société, il y a peu de moments où on peut rien faire, encore une fois.
Tout à fait.
Je fais l'apologie de rien faire, mais c'est vraiment important, je pense, des fois, de s'octroyer des moments où on est un peu tranquille et où on ne se met pas trop de pression. Et où aussi, on n'est juste pas en train de s'informer, juste en train de vivre l'instant présent. Et j'ai l'impression que la marche offre cet espace... Et moi, j'adore la ville aussi. Moi, j'ai grandi en ville, j'ai toujours vécu en ville. Et je trouve qu'il y a des belles choses dans la ville, des beaux moments, des interactions qu'on peut voir quand on se concentre un petit peu sur ce qui nous arrive, qu'il est triste de rater si on est absorbé par écrire un texto ou écouter quelque chose.
Oui, c'est ça. Oui. Parce que c'est une question de santé. On revient au concept, à la thématique, une seule santé urbaine. Ouais. Et on vise la santé de l'individu.
La santé de l'individu, la santé des écosystèmes, la santé des animaux. Et pour le coup, on a la chance à Montréal d'avoir beaucoup de parcs urbains. C'est pas le cas partout. On a aussi la chance d'avoir des écosystèmes différents. On a des petits animaux aussi qui sont en ville. Et puis la santé humaine, je pense qu'on parle beaucoup de santé physique à travers la marche, mais il y a aussi la santé mentale qui est soignée à travers l'exercice de la marche. Vraiment, il y a les endorphines qui sont provoquées par le mouvement, qui sont des hormones de bonheur. Mais il y a aussi une forme de liberté qu'on retrouve, j'ai l'impression. Moi, je sais que je travaille à côté de chez moi, et le fait de pouvoir aller travailler sans prendre aucun transport et juste en marchant, mais j'ai l'impression que je suis la reine du pétrole. C'est vraiment... Pour moi, c'est l'une des plus belles choses qui m'arrivent et je ne pensais pas que c'est ce dont j'avais besoin. Mais juste le fait d'avoir cette liberté de mouvement en n'ayant qu'à marcher, en ne dépendant que de mes deux jambes et aussi en prenant ce petit moment pour aller travailler tranquillement avec moi-même, je trouve que c'est ça. En fait, c'est la tranquillité, la marche.
Ce sont des moments de bonheur dans une journée.
Exactement. Et puis là, ma fille apprend à marcher et je vois aussi tout le plaisir qu'un individu découvre, à juste découvrir les capacités de son corps.
Et ça se manifeste comment chez votre fille? Comment vous le voyez?
Là, elle découvre qu'elle peut sauter. Mais c'est vraiment, c'est vraiment juste le fait que maintenant, elle veut marcher comme les grands. Elle regarde beaucoup autour d'elle. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans l'environnement urbain et où on évolue. C'est que nous, on n'a pas l'habitude de regarder autour de nous parce qu'on est pressé, parce qu'on est occupé. Quand on a un bébé qui est capté partout autour de lui. Elle est très intéressée. C'est maman, écureuil, maman, 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 le monsieur, maman, le bonhomme. Et c'est vraiment intéressant de voir la ville un petit peu différemment. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les interactions que ça crée avec les autres, parce qu'elle interpelle beaucoup les gens. Et marcher pour elle, c'est un plaisir. Là, elle apprend à courir, à sauter. Mais je vois que ça lui fait du bien. Quand elle marche, elle est moins de mauvaise humeur. C'est vraiment très polarisé en bébé. Donc
et ça suscite la communication entre la mère et la fille.
Oui, c'est
on
ça.
Découvre ensemble quelque chose.
On découvre tous les objets qui existent dans la ville. On ramasse tous les objets qu'il ne faut pas ramasser. Mais c'est vraiment un bon moment. On adore aller faire des promenades. Mon conjoint et moi, on marche déjà beaucoup parce qu'on fait tout à pied. Mais le fait de faire des balades avec notre fille, c'est vraiment hyper agréable parce que on lui donne le plaisir aussi de marcher. Puisqu'il y a quand même quelque chose dans le choix de ne pas avoir une voiture qui est aussi de l'ordre de nos valeurs. Et parce qu'on a aussi le luxe de pouvoir se le permettre. Mais de transmettre cet amour de la marche, cet amour de la balade. Et puis encore une fois, on se balade, on discute, on n'est pas parasité par quoi que ce soit. On passe un bon moment toutes les deux ou tous les trois. Et puis on s'amuse, quoi.
Ça vous rappelle une époque à Bordeaux.
Exactement. Mais vraiment, là, d'en discuter, ça me replonge dans des moments que j'ai eus avec un de mes amis d'enfance, qui est toujours mon ami aujourd'hui. Et c'était vraiment, on traînait en rentrant, en marchant, on profitait, on rigolait bien. Et j'aime bien transmettre ça à ma fille. J'espère qu'elle aura ça dans sa vie, d'avoir cet instant de liberté quand on a 10-12 ans, de marcher tout seul pour aller à la maison ou pour aller au collège, à l'école. Et c'est vraiment, c'est vraiment agréable et c'est bon pour l'esprit aussi.
Alors j'ai une question. Oui. À la chair, une seule santé urbaine. Comment on fait pour encourager les gens à marcher? C'est pas évident, là.
C'est très intéressant parce que justement, là, on a rédigé des projets, on est en pleine réflexion sur la construction de la programmation scientifique et on a des experts de la marche dans les scientifiques de notre noyau scientifique. Je pense à Sébastien Laure et Mathilde Loisel qui travaillent ensemble. Et on a réfléchi dernièrement à un projet sur la marchabilité des villes. Donc, à quel point on peut marcher dans nos environnements. Parce que là, j'explique à quel point c'est génial de marcher, mais encore faut-il que ce soit possible et accessible.
Oui.
Puisque rien qu'à Montréal, selon l'arrondissement où on vit, la partie de la ville où on est, on peut plus ou moins bien marcher. Moi, j'habitais à Rosemont, maintenant j'habite à Parc Extension, c'est pas du tout la même expérience de marchabilité. Selon la saison aussi, et selon la personne qu'on est. Moi, je suis une femme valide, donc j'ai pas forcément d'enjeux physiques pour marcher. Après, il y a certains moments de la journée, certains moments de la nuit où j'irai peut-être pas marcher toute seule selon les quartiers où j'évolue. Mais je trouve ça très intéressant d'étudier d'abord quelles sont les possibilités de marcher et aussi quels sont les bienfaits. C'est quelque chose qu'on essaie de documenter. Des fois, la bonne santé, c'est bien plus accessible que l'on croit. Encore plus à Montréal où il y a des parcs urbains, où il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Alors, oui et non. Il y a certaines choses qui sont faites pour les marcheurs valides. Encore une fois, j'insiste sur le fait d'être valide parce que moi, j'ai vu quand j'avais une poussette pour mon bébé, il y a plein d'endroits où on ne peut pas aller quand on est... Et moi, je n'étais pas à mobilité réduite puisque j'avais juste cet enfant à déplacer. Mais si j'avais été en chaise roulante, j'aurais rencontré les mêmes enjeux qui m'auraient laissé à l'extérieur de certains édifices, qui m'auraient empêché de descendre à certains arrêts de métro. Et il y a aussi vraiment cette dimension de selon la personne que vous êtes, vous vous autorisez plus ou moins à marcher. Donc on réfléchit beaucoup à ce contexte. Et dans les messages, je pense, de santé publique, le fait de marcher plus, c'est quand même un message qu'on véhicule beaucoup. Et nous, au niveau de la chaire, on réfléchit beaucoup aux mécanismes de gouvernance, donc aux prises de décision qui permettent d'installer une seule santé dans la ville. Les prises de décision, c'est considérer un transport plus lent, plus respectueux de la santé, plus respectueux de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, la voiture, c'est une catastrophe en matière de santé publique parce qu'il y a la sédentarité, mais c'est aussi une catastrophe de matière écologique, puisqu'il y a les gaz à effet de serre. Il y avait des écureuils qui se font écraser, par exemple. Mais il y a plein de choses. L'impact de la voiture prend tout l'espace aujourd'hui dans nos villes. Et on essaie nous aussi de nourrir une réflexion autour de cette place de la voiture. Il y a certains de nos chercheurs qui réfléchissent à ça depuis longtemps. J'ai cité Sébastien Laure, Yann Kestens, Kate Frolic, pour ne citer qu'eux. Mais certains autres travaillent aussi là-dessus. Aujourd'hui, on aménage tout autour de la voiture. Est-ce qu'on pourrait changer un petit peu le point sur lequel on se concentre et prendre cette dimension une seule santé urbaine, c'est-à-dire réfléchir à l'environnement, aux animaux et aux humains, et pas juste à comment les humains doivent se déplacer pour arriver le plus vite possible. Surtout qu'aujourd'hui, moi je conduis quasiment jamais, mais la voiture c'est un enfer à Montréal. C'est vraiment long.
Il semble que oui.
C'est long, c'est pénible. Les gens sont agressifs parce que je pense qu'ils sont lassés de... Si on faisait ça tous les jours, moi je sais pas comment ils font. Mais non, vraiment, une seule santé urbaine, c'est changer un petit peu nos priorités, réfléchir autrement et surtout voir que la façon dont on vit aujourd'hui, c'est pas uniquement à cause de la voiture, mais la voiture est un symptôme. Il y a un problème qui respecte pas l'environnement, qui respecte pas les animaux, qui respecte pas les humains. Donc comment on fait pour repenser les choses différemment? Comment on réfléchit? Et il y a plein d'études expérimentales qui montrent qu'on peut se passer de la voiture dans certains endroits et les gens sont très contents. Évidemment, au début, les gens ronchonnent quand ils perdent leur place de parking parce que c'est un confort qui est difficile à perdre, mais les bienfaits que ça amène permettent de faciliter les négociations pour améliorer l'urbanisme.
Est-ce qu'on peut parler d'un basculement de perception où on aurait pensé jadis à l'automobile comme le point central du développement, et revenir à l'humain, aux animaux, à l'environnement, changer complètement notre aperçu, notre perspective?
Alors, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on voudrait faire. Mais là, en m'écoutant parler, je me dis, il faut aussi se rappeler que d'avoir le choix, comme moi, d'aller travailler en marchant, c'est aussi un luxe. Il y a des gens qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture. Ces gens-là, le but, ce n'est pas de compliquer leur vie. Ce n'est pas de les pointer du doigt et de les stigmatiser, mais c'est aussi essayer d'offrir d'autres options. On réfléchit, par exemple, à l'équité dans les transports au niveau de la chair. Parce que l'accès au transport est clairement déterminé socialement. Moi, qui suis une femme blanche, qui travaille pour l'université, qui suis diplômée et qui habite à Montréal, à Parc Extension, c'est plus facile pour moi d'aller travailler en marchant que si j'habitais à Saint-Jérôme, comme une de mes collègues, et ou alors si j'habitais dans un quartier plus excentré de Montréal, comme par exemple l'accès aux transports en commun et la possibilité de marcher n'est pas la même à Saint-Michel ou à Outremont. Il y a un écart d'espérance de vie entre ces deux quartiers de Montréal, qui est, je crois, de 7 ans.
7 ans, oui.
Au sein d'une
c'est
même
beaucoup,
ville.
C'est beaucoup.
Ouais, mais c'est très intéressant et très révélé aussi par ce contexte qui... Alors, ce n'est pas la marche qui détermine l'espérance de vie, mais c'est aussi des choses...
C'est un facteur, quand même.
C'est ça. Ouais. C'est que ça y contribue. C'est qu'on parle de déterminants de santé, on parle de contexte dans lequel les gens évoluent, et c'est très intéressant de voir qu'il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire. Et nous, on essaie justement à la chaire de réfléchir à comment prendre le contexte le plus favorable possible pour éviter de faire peser la décision et la culpabilité sur les gens. Parce que c'est pas individuel, ces choix-là. C'est des choix de société, c'est des choix de communauté, c'est des choix politiques aussi. Donc, c'est réfléchir ensemble avec les chercheurs, avec la communauté, avec les citoyens, à comment on peut changer les choses pour les améliorer, parce qu'au final, le réchauffement climatique, il va tous nous toucher.
Alors, on vise toujours la santé de l'individu, des animaux et de l'environnement.
C'est ça.
Parlons un peu d'environnement. Comment la marche s'associe, là, on parle de l'environnement et de la marche. Quel est le lien? Comment vous le voyez?
C'est quelque chose qui s'inscrit, la marche, dans beaucoup de projets et de partenariats de la chaire, puisque les initiatives, par exemple, de corridors écologiques sont un très bon exemple de qu'est-ce que c'est le lien entre l'environnement et la marche. De marcher, d'être au contact de la nature, des animaux, des arbres, c'est prouver que c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour la santé. Il y a le concept de la biophilie, qu'on aime les humains être en contact avec la nature. Donc, de marcher sur un espace totalement bétonné ou sur un espace arboré ou dans un parc, ça change aussi l'expérience. Et puis, de manière tout à fait pratique aussi.
Oui. Oui. C'est parce que vous prenez conscience de la nature en marchant.
Exactement.
C'est peut-être aussi simple que ça.
Oui, c'est ça. Puis, moi, par exemple, je vis en ville depuis toujours. Mes parents n'étaient pas des gens qui étaient passionnés de randonnée. Moi, j'ai découvert la randonnée à 30 ans. Alors, ce n'est pas une passion qui est née, mais j'apprécie l'expérience de temps en temps parce que ça provoque vraiment quelque chose. Ah ouais. Ah oui, la nature, c'est quand même ça. Il y a quand même quelque chose de très... de subjugant presque, dans le fait de marcher en pleine nature, dans le fait de... Puis même d'être juste au calme, au vert. Le parc Jarry, par exemple. Moi, j'habite à côté du parc Jarry. J'adore y aller parce qu'il y a un côté apaisant de juste être dans un espace où il n'y a pas de voiture, où il n'y a pas le bruit forcément de la circulation selon où on se trouve dans le parc. Et d'être un petit peu dans un écrin vraiment de verdure où on est tranquille avec... avec du vert. Je pense que c'est aussi ça qu'on essaie de réfléchir. Et pour le coup, oui. Montréal, on a de la chance pour ça. C'est quand même une ville où il y a, encore une fois, je le répète, beaucoup d'arbres et beaucoup de parcs. Et ça change complètement l'expérience de marche.
À la chaire, donc, vous jouez un rôle très important, celle de coordonnatrice principale. Comment vous voyez assurer les liens, justement, avec les intervenants dont on parlait tout à l'heure? Pour réaliser toutes ces belles, ces belles intentions.
Justement, c'est quelque chose de crucial à la chaire. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le communautaire avant de travailler dans la recherche. Donc, j'ai été de l'autre côté de la barrière où on a des projets de recherche qui viennent nous trouver et où on est débordé, où on n'a pas le temps, mais à la fois on voit l'intérêt. C'est pour ça qu'on essaie d'être très respectueux de nos partenaires en les chouchoutant et surtout en essayant d'être dans une vraie co-construction. Ça prend énormément de temps, ça prend aussi énormément de ressources de notre côté qu'on doit fournir pour pouvoir aussi nourrir les projets qu'on veut mettre en place, puisque la co-construction, c'est impliquer l'expertise de nos partenaires mais pas faire peser le fardeau de la réalisation sur leurs épaules. Donc, il faut qu'on s'arrime correctement. Moi, je trouve que c'est la partie que je préfère dans mon travail parce qu'on se nourrit aussi énormément de la réalité du terrain. Puisque Evelyne, par exemple, a énormément d'idées et confronter toutes ces idées à la réalité du terrain, il faut trouver comment les connecter, comment les appliquer. Mais c'est génial de pouvoir... travailler avec une visionnaire qui s'est restée pragmatique et ont réussi à avancer, à construire des choses. Et l'ensemble des chercheurs sont dans cette dynamique réelle de on écoute le terrain, on va au rythme du terrain, on construit avec le terrain, on voit comment on va faire. Maintenant, ce serait mentir que dire que c'est parfait. On est à la naissance de la chaire, donc là, on a beaucoup fait de représentations.
Et parmi vos collaborateurs, vous avez quelques spécialistes dans toutes sortes de domaines, et dont un qui s'occupe, si j'ai bien compris, de mesures de performance.
Oui, on travaille dans l'équipe. Nous avons Yves Terra, qui est un data scientist, un scientifique des données du consortium en santé numérique. Et Yves est microbiologiste de formation et très sensible à l'approche une seule santé. Cette approche qui est fondamentale au niveau de la chaire, que toutes les santés doivent être traitées de manière intégrée afin d'améliorer la santé de tous. Et Yves travaille avec nous sur différents projets, notamment actuellement on a un projet sur la cartographie de la biodiversité, c'est-à-dire comment on monitore des informations de biodiversité dans une ville. Donc moi je ne sais pas, moi je ne suis pas data scientist, mais Yves justement par son pied dans le numérique et dans l'intelligence artificielle, son pied dans la collecte de données, un troisième pied dirons-nous dans la microbiologie, c'est exactement comment arrimer ces choses-là, puisque la chaire est transdisciplinaire et c'est des personnes comme Yves qui font vivre en fait l'interdisciplinarité, puisqu'il a un pied un peu partout. Il arrive à faire les liens, comme il connaît bien l'Université de Montréal, que nous, on ne ferait pas forcément. Et Yves est aussi très investi dans la cause écologique, très sensible à ce que nous faisons, et il est beaucoup guidé, je pense, par le cœur, j'ai envie de dire, par ses valeurs, oui. Ce qui font que c'est un allié de choix pour la chair que de travailler avec quelqu'un qui a le cœur à la bonne place et le cerveau aussi.
Alors, je vais le consulter au sujet des montres connectées.
Avec plaisir.
Et voilà. Alors, Noémie, merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec nous pour nous avoir, en fait, donné un aperçu des projets à venir et la façon dont on peut vous joindre et aussi de l'importance de la marche dans le quotidien, d'hier à demain.
Exactement. Merci beaucoup, Denis, et merci pour votre écoute.
Merci. À bientôt.
Bonne journée.
Alors bonjour Yves et bienvenue à Marcher vers le bien-être.
Bonjour Denis, bonjour tout le monde.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Il y a un outil qui mesure la performance et c'est surtout ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la montre connectée. Quels sont les aspects positifs pour le marcheur, pour le coureur, en fait, pour tous ceux qui veulent gérer leur performance, pour ainsi
Mais
dire?
Je dirais que ça va au-delà. C'est aussi beaucoup vendu aussi comme pour permettre aux gens de contrôler certains paramètres physiologiques. On pense à des problèmes, à des gens qui ont des problèmes cardiaques, qui peuvent monitorer leur pression artérielle en continu, leur fréquence cardiaque, leur qualité de sommeil, etc. Mmh. Donc, ce n'est pas réservé, je dirais que c'est notamment un certain type de smartwatch. Il y a presque les montres connectées qui sont réservées aux coureurs, qui vont avoir certaines fonctionnalités, puis les montres plus généralistes, qui, elles, servent à beaucoup de gens pour voir leur déplacement, compter leur nombre de pas, pas nécessairement dans une optique de performance,
la mais
dans
distance, une optique... le nombre de pas.
Exactement, et... de savoir. Puis qui sont presque toujours reliées à des applications... ou sur ordinateur, ou avec notre téléphone, et puis qui vous donne, qui vous encourage à faire plus, parfois à faire moins, ce qui peut être intéressant.
Alors, j'aimerais qu'on se penche un peu sur, justement, les aspects positifs, et il y a quelques risques à ces montres dont on parlera tantôt. Ça permet quand même de gérer son dossier médical, pour ainsi dire, j'imagine, là. D'avoir connaissance de votre rythme cardiaque, la pression, et ainsi de suite. Donc, il y a des avantages intéressants de ce côté-là.
Oui, il y a des avantages et des applications. Moi, qui travaille dans la santé numérique, et notamment sur les algorithmes qui permettent, à partir de ces types de données, de faire des diagnostics ou des pronostics, ou etc., il y a des avantages. On peut détecter des choses, on peut détecter des arythmies, on peut détecter plein de choses différentes. On peut faire un suivi très serré de ces paramètres physiologiques. Et ça, c'est probablement un avantage. Et c'est aussi quelque chose qui va très probablement être utilisé dans les prochaines années, intégré à l'hôpital, au fonctionnement du système de santé. On parle, par exemple, aujourd'hui, il y a des projets qui sont développés à Montréal où on va suivre des gens à distance sur, justement, ces paramètres physiologiques. La pression artérielle, par exemple, la fréquence cardiaque. C'est probablement une bonne idée que, par exemple, des gens dont le facteur de risque est pas, où il n'y a pas une urgence absolue de ne pas garder ces personnes-là à l'hôpital dans un lit, pour plein de raisons qu'on connaît. L'hôpital, ce n'est pas spécialement drôle de rester à l'hôpital. On mange en général pas très bien, on peut être soumis à des infections qui traînent dans l'hôpital. Oui. Maintenant, on envisage d'avoir des ordinateurs qui permettent de surveiller à distance des personnes et éventuellement de les rapatrier à l'hôpital si on détecte un signal d'urgence. Ça, c'est effectivement une bonne chose.
Et aussi, on peut gérer son profil de santé grâce à l'ordinateur, grâce aux applications, justement, et prendre la responsabilité un peu de sa santé en ayant justement les données dont on a besoin pour assurer une communication avec son médecin, et ainsi de suite. Et c'est ça.
Ouais. Donc, ça, c'est des aspects qui sont effectivement extrêmement intéressants. En fonction de la personne qu'on en face, en fonction de la personne qui choisit de faire ça.
Oui.
Parce que peut se développer aussi, par rapport au monde connecté, une espèce de surveillance extrême de son état de santé. Il y a des gens qui vont développer des sortes de... Ils vont regarder leur montre toutes les deux minutes pour suivre leur rythme cardiaque. Ils vont regarder, ils vont passer tous les soirs, et puis ils vont suivre. Et puis, il faut être informé. Qu'est-ce que c'est un rythme cardiaque ? Moi, je suis pas cardiologue. Donc, si je regarde mon rythme cardiaque, je vais le voir s'accélérer à certains moments. Je vais pouvoir l'interpréter d'une certaine manière, mais qui n'est pas nécessairement... Mon suivi de rythme cardiaque n'est pas nécessairement anormal. C'est ce qu'on appelle... Moi, je sais que pour le sommeil, il y a quelque chose que je connais qui est appelé l'orthosomnie. Si on suit son sommeil à partir d'une montre connectée, on va vouloir avoir un sommeil absolument parfait, etc. Donc, il y a des gens qui développent des sortes d'angoisse à regarder ces données en continu et qui vont s'imaginer qu'ils dorment mal alors qu'ils dorment pas si mal que ça. Je dirais que c'est en fonction des personnes. Est-ce qu'on est capable de gérer ces données ? On est déjà sursollicité numériquement et on rajoute là quelque chose qui n'est pas à portée de bras. Là, mon téléphone est à portée de bras, mais là, qui est sur notre bras. Donc, qui est en continu en train de prendre ces données. Et je pense que ça incite beaucoup de gens à se surveiller au-delà de ce qui devrait l'être.
Oui, donc, c'est une dépendance à la technologie. Là.
Oui, d'ailleurs, on le voit encore. Si on regarde sur le Mont-Royal, les gens qui ont des montres connectées, qui surveillent leur rythme cardiaque, c'est pas... Toutes les 15 secondes, à peu près, ils sont en train de regarder s'ils sont dans le bon rythme, ou rythme cardiaque, ou la bonne allure qui est programmée pour leur entraînement. C'est comme un réflexe très numérique qui s'est développé. C'est pas à moi de juger si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais j'ai vraiment l'impression que ça devient quand même quelque chose d'un peu plus... qui nous coupe un peu d'une certaine réalité. Quand on est en train de courir, quand on est en train de marcher... C'est important de regarder parce que c'est important, comme vous le disiez la dernière fois aussi, d'échanger avec des gens, d'avoir l'opportunité de s'arrêter, parler.
Et c'est de... En fait, c'est comme regarder son téléphone à toutes les minutes ou quoi que
Tout
ce soit.
Tout à fait.
Là. C'est ça,
Mais je pense que c'est la fréquence de... Les gens regardent ça même de façon encore plus fréquente.
Ah oui?
Parce que c'est quelque chose qui les intéresse, c'est leur physiologie.
Oui, oui, oui. Et aussi, il y a le risque de partage des données.
Oui. Ça, c'est très important. C'est très peu discuté. Les informations qui sont enregistrées sur les montres connectées sont des informations qui sont extrêmement sensibles, qui vont vous donner en très peu de temps. Si je branche pour vous, Denis, sur une journée une montre connectée, je vais avoir un excellent aperçu de votre santé générale. Je vais avoir votre rythme cardiaque. Souvent, pour les coureurs, la première chose, quand vous allumez votre montre, vous mettez votre poids, vous inscrivez votre poids, votre sexe, votre taille. Parce que ça va permettre de paramétrer les entraînements qu'on va faire derrière. Ces informations-là sont déjà données.
Oui.
Ensuite, va rajouter à ça, vous allez faire un test de fréquence cardiaque maximale. Parce que c'est comme ça.
Ah oui.
Souvent,
oui.
En course à pied, on calcule la fréquence cardiaque maximale. Ouais. La fréquence cardiaque maximale, elle est extrêmement indicative de votre état de santé général. Et puis après, on va monitorer parfois en continu votre rythme cardiaque, ça donne aussi un excellent. Ce qui fait qu'en une journée de montre connectée, si vous prenez votre montre pour aller courir, ces données-là donnent une excellente idée de votre état de santé. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir votre état de santé, qui veulent le connaître. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des gens qui estiment que c'est sur le marché noir de vente des données. C'est plus valorisant d'aller... les données de santé sont vendues plus cher que les données de carte de crédit.
À ce point-là?
Oui, point-là. Parce que ces données, les données de carte de crédit, une fois que votre carte de crédit est arrêtée, mais les données de santé, elles sont... S'il y a une brèche sur les données de santé, ces données de santé-là sont brisées à jamais. On saura toujours ce que vous avez été intenté. Et ça, c'est extrêmement important. Évidemment, les compagnies d'assurance, mais plein d'autres personnes sont très intéressées par ces données-là. Et quand on signe cette espèce de petite chose où on envoie nos données sur des serveurs qui ne sont pas nécessairement au Québec, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment sont calculés les paramètres aussi qui vous permettent qui donnent, parce que vous avez des indicateurs sur votre état de santé. C'est toujours un flou. C'est comme tout ce qu'on signe sur les consentements, personne ne le lit.
Oui.
Et c'est souvent très flou. Donc les utilisations secondaires ne sont pas toujours très claires.
Et est-ce que c'est la même chose pour les marcheurs qui peuvent évidemment contrôler l'information?
Oui.
Et les marcheurs ont peut-être moins d'informations qu'ils inscrivent dans leur montre?
Je ne pense pas que ça change grand-chose. Je pense que, admettons qu'on n'ait pas vous, Denis, vous n'ayez pas fait un test de fréquence cardiaque maximale, qui est un test qui est quand même assez intense là, à faire. Le fait que si vous aviez une montre, et si on sait que vous faites 10 km par jour depuis un certain nombre d'années, on a une extrêmement bonne idée de l'état de santé général dans lequel vous êtes. C'est des données qui sont extrêmement sensibles. Et peu protégées, parce que la montre en soi est déjà... Il y a des études qui ont montré que les montres sont facilement piratables. Ah, donc oui. on peut facilement extraire des données des montres connectées, en plus des risques de sécurité sur les serveurs où ces données sont envoyées. Et le risque aussi de partage par les, tout simplement quand on signe les consentements. Donc c'est quelque chose qui n'est pas discuté, puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut absolument pas prendre une montre connectée. Je suis en train de dire qu'il faut faire attention à ces montres connectées.
Donc c'est une décision très importante.
Très importante.
Si on porte ou non une montre connectée ou d'autres appareils semblables, parce qu'il n'y a pas seulement que la montre.
Exactement. Mais la montre a la particularité de mesurer des paramètres physiologiques. Que par exemple qu'un téléphone portable n'est pas capable de faire. C'est les données de santé les plus sensibles qui existent.
Donc, comment on arrive à contrôler? Est-ce qu'on peut baliser, justement, ces données par la législation, par d'autres moyens?
Honnêtement, je ne connais pas très bien le sujet, la législation qui est reliée à ça. En général, c'est quand même plutôt le Far West, c'est-à-dire que on signe... faudrait que je lise ces histoires de consentement d'un bout à l'autre. Oui. Puis le diable est souvent dans les détails.
Tout à fait.
Donc c'est pas souvent accessible, même pour des gens comme moi. Moi, je suis plutôt un scientifique de données et l'aspect législatif est peu compréhensible de mon côté. Ce qui est un risque aussi, c'est-à-dire qu'on signe parfois pour des utilisations secondaires qui ne sont pas nécessairement consenties intellectuellement, je veux dire.
Alors Yves, pour un marcheur, la montre, est-ce que c'est la montre connectée, est-ce que c'est utile?
Alors utile, je ne sais pas. Je sais qu'effectivement, ça peut être un incitatif intéressant pour des personnes de contrôler. On dit qu'il faut faire tant de pas par jour.
Ah oui, les 10 000 pas, oui.
Exactement. Ouais. Puis je pense que c'est un réel intérêt de motivation pour un certain nombre de personnes. De sortir dehors, de s'astreindre aussi. Il y a des programmes qui sont proposés qui permettent à des personnes de suivre un programme. Il y a même beaucoup d'applications qui évitent le surentraînement, ce qu'on appelle, ou qui permettent à des personnes, en fonction des paramètres physiologiques, d'adapter leur distance. Parce qu'on le voit en marche comme en course, qu'il y a des gens qui tirent un peu l'élastique trop fort, puis qui se mettent d'un seul coup à marcher de façon complètement démesurée du jour au lendemain. Puis c'est quand même des sports qui doivent être pratiqués de manière progressive. Puis je pense que c'est de très bons outils pour ces personnes-là.
J'imagine surtout si on amorce un programme d'entraînement, par exemple.
Exactement.
Où on doit y aller graduellement, petit à petit, pas à pas.
Tout à fait. Ce que peu de personnes font, en réalité. Mais effectivement, c'est des bons accompagnateurs de ça.
Et puis, on peut, j'imagine, vouloir comparer avec d'autres aussi, comparer sa performance.
Tout à fait. Vous pouvez faire des courses fantômes avec des personnes. C'est-à-dire que vous pouvez, sur le même parcours, il y a des sites qui sont développés sur qui va faire la meilleure performance sur tel ou tel parcours.
Et on peut mesurer sa performance selon, justement, des balises qui ont été développées pour des programmes de formation, pour des programmes médicaux, j'imagine. Donc, c'est bon pour surveiller de façon générale, globale, sa performance, son rendement à la marche.
Oui. Puis je pense que c'est au-delà de la performance, c'est juste se fixer de... C'est une bonne façon de se fixer objectivement des objectifs. C'est-à-dire qu'il faut faire tant de pas par jour, on fait tous ces tant de pas par jour, puis on doit suivre ce programme, on a un suivi qui est assez aisé. Tout est fait pour que ce soit facilité, puis c'est probablement une bonne chose. Peut-être qu'il faudrait enlever la montre la nuit. c'est peut-être ça.
Non, c'est un bon conseil, oui.
Peut-être qu'il faudrait utiliser la montre juste dans ses activités.
Alors Yves, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je retiens de tout ça que la montre connectée bien sûr, a beaucoup d'avantages à surveiller notre rendement, notre dossier médical, mais il y a aussi de risques énormes dans la vente des données, par exemple, à des tierces parties. Donc, c'est une décision importante que oui. chacun et chacune d'entre nous doit prendre.
Et c'est une décision qui est plus collective qu'on le pense. Parce qu'une fois que beaucoup de gens auront des mondes connectés et que, par exemple, le système de santé va utiliser ces mondes connectés, il faudra que les gens s'équipent en monde connecté. Et donc, il va y avoir plein de conséquences. Et puis, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si le système de santé est vraiment axé sur ce genre de choses, et c'est possible que dans les années qui viennent, c'est quelque chose, il y a beaucoup de projets pilotes à Montréal et dans les hôpitaux qui utilisent ces mondes connectés pour monitorer, dans des cadres évidemment de recherche, dans des cadres universitaires. Et ça, c'est extrêmement correct. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui peuvent pas s'acheter de monde connecté. Donc il faut pas qu'on crée avec ce genre d'outils aussi une inégalité dans le système de soins. Je pense que c'est important de le mentionner. Rien qu'un cellulaire, un forfait de cellulaire, c'est extrêmement cher. Il y a beaucoup d'applications qui se développent en santé, qui utilisent des cellulaires, qui utilisent des mondes connectés, mais il faut que ces outils soient utilisés à bon escient et qu'on s'assure que l'ensemble de la population est traitée de manière égalitaire. D'autant plus que souvent les populations qui sont marginalisées sont les plus malades. Donc il faut que ces outils-là servent à tout le monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc quand on fait des choix, n'importe quel choix, hein, de toute façon qu'on fasse, il faut quand même penser plus largement. Je dirais, pour faire une comparaison similaire, ce qui me semble similaire, ben on peut faire le choix de par exemple de commander sur Amazon versus aller dans un commerce de proximité. C'est un choix qu'on a. Et quand on fait le choix d'une montre connectée, même si c'est plus lointain, il faut penser à tout ce qui peut se passer après. Et je pense que c'est important de réaliser que ces choix sont plus impliquant que ce qu'on pense. Parce que ces objets technologiques viennent dans nos vies. Le cellulaire, c'est alors qu'il était très rare, vous avez connu une vie sans cellulaire, j'ai connu une vie sans cellulaire.
Tout à fait, oui.
C'est entré dans nos vies et on claquait des doigts le lendemain, tout le monde avait ces outils-là.
C'est
devenu un outil dont on ne peut plus se passer. On parlait tout à l'heure de la double authentification. Par exemple, pour se connecter à une banque, si on n'a pas de cellulaire, on ne peut pas se connecter sur un site de banque maintenant. Donc ces outils, cette montre connectée qui va venir dans nos vies, qui va avoir certaines utilités dans le domaine de la santé, mais aussi pour d'autres choses, plus dans des contextes de loisirs, et aussi beaucoup dans le domaine de la santé, elles vont venir dans nos vies, et puis on se sera aperçu dans 10 ans que tout le monde en aura, et on va réaliser qu'il y a des importances. Il y a une importance dans l'intrusion dans la vie privée. On voit déjà que nos portables font partie de nos vies, ils sont sur notre table de chevet quand on dort et quand on se réveille. Et là, la montre est collée à nous.
C'est ça.
Donc, il faut penser à ce que ça va devenir, même si c'est très attractif d'en avoir une et que ça peut être très utile dans certains cas, je le dis.
Alors, une décision très importante.
Très importante, voilà, il me semble. Voilà.
Alors, encore une fois, merci beaucoup, Yves, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous sensibiliser, justement, au phénomène de la montre connectée.
Merci, Denis.
À bientôt. Beaucoup. Au revoir. Bonjour Michel et merci de vous joindre à nous pour votre 3e chronique, Le corps en marche.
Bonjour Denis.
Michel, j'ai souvent parlé des bienfaits de la marche rapide, ou du moins à un pas qu'on pourrait considérer comme énergique. Aujourd'hui, vous allez démontrer que la marche lente peut être tout aussi bénéfique et que ce n'est pas nécessairement la vitesse qui compte, mais la distance.
Effectivement, Denis, la marche rapide est souvent présentée comme le meilleur type d'exercice, mais vous seriez surpris d'apprendre que la marche lente peut être tout aussi bénéfique. Des recherches auprès de 150 femmes menées pendant leur grossesse et les premiers mois de maternité ont démontré l'impact positif d'une marche lente effectuée tous les jours avec des pauses fréquentes. Les tests réguliers du lait maternel ont révélé que plus la mère faisait de pas, plus elle produisait un composé appelé 3SL, qui est un élément clé pour la santé future du bébé. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que la vitesse à laquelle elle marchait importait peu.
Intéressant.
Il suffisait d'une simple promenade quotidienne pour que les bienfaits apparaissent. Cette découverte a mis en lumière l'impact d'une marche douce sur la santé des générations futures. Un autre exemple fascinant, des chercheurs de l'Université de Maastricht, aux Pays-Bas, ont découvert que les sujets qui marchaient plus longtemps, mais à un rythme plus lent, avaient des niveaux de cholestérol plus bas et des niveaux d'insuline plus sains que ceux qui pédalaient intensément pendant une heure, mais passaient le reste de la journée assis à un bureau. Ils ont ajouté que l'élément le plus important est de réduire le temps passé assis. Nous savons que rester assis, ne serait-ce qu'une heure, réduit le flux sanguin dans les jambes et vers le cœur de 50 % affectant les niveaux de cholestérol et mettant en péril notre santé cardiaque et métabolique. Mais des chercheurs américains affirment qu'une marche lente de 5 minutes chaque heure inverse les dommages. Lorsque les chercheurs ont demandé à un groupe d'hommes de bouger pendant 5 minutes chaque heure à une vitesse de 3,2 km/h, leur longue période de sédentarité n'était plus néfaste pour leur santé cardiaque. Une activité physique légère peut aider, a conclu l'équipe de recherche.
C'est tout à fait fascinant comme résultat de ces enquêtes. Il y a une autre question qui se pose. Qu'en est-il des personnes obèses ou en surpoids qui ont peut-être un peu plus de difficultés à marcher?
Bien, Denis, si vous êtes en surpoids, de longues marches lentes peuvent être plus bénéfiques que les marches rapides. Donc, si vous marchez à un rythme tranquille, 3,2 km/h, plutôt qu'à un rythme soutenu de 4,8 à 6,4 km/h, vous brûlerez plus de calories et vous réduirez la pression sur les articulations des genoux de 25 %.
Ah, très pertinent aussi.
Oui, oui. Et pour les personnes âgées qui trouvent la marche plus difficile, les chercheurs ont suggéré que pour les personnes âgées qui trouvent la marche plus difficile, la recherche suggère qu'au lieu d'abandonner, elles devraient adapter et modifier leur technique de marche. Donc, des chercheurs finlandais ont découvert que les personnes âgées qui continuaient à marcher sur de longues distances, mais utilisaient des bâtons de marche, adoptaient un rythme plus lent et faisaient des pauses fréquentes en cours de route, étaient plus indépendantes et en meilleure santé mentale et physique que celles qui avaient arrêté de marcher, croyant que c'était devenu trop exigeant ou difficile. Une autre étude sur les personnes d'âge mûr a révélé qu'une marche tranquille de à peu près 8000 pas par jour faisait une différence dramatique sur la question de savoir si vous vivez ou mourrez, selon le docteur Edward Phillips de la Harvard Medical School. Donc, en résumé, c'est la distance et à n'importe quel rythme et avec n'importe quel nombre de pauses qui l'emporte sur l'intensité.
Vraiment, je trouve ça intéressant, pertinent, mais aussi adapté à notre mode de vie. On peut intégrer la marche à notre régime de vie au jour le jour, et en ville surtout, ben, on peut marcher pendant de longues distances.
Absolument. On peut choisir de marcher pour aller au bureau plutôt que de prendre l'autobus quand il fait beau.
Voilà. Alors, y a-t-il d'autres facteurs qui font que la marche lente est un exercice, on pourrait dire, pour tous?
Bien oui, les scientifiques du sport suggèrent que c'est la persévérance qui est essentielle. Il importe de rester mobile, qu'on soit enceinte, âgée, en surpoids ou en convalescence. Presque tout le monde peut se permettre de marcher lentement, à condition d'adapter son style. Donc, c'est vraiment, là, il faut y aller. Même si ça veut dire que tu marches, tu traverses la rue, tu arrêtes au parc, tu t'assois sur le banc. Mm-hmm. Après, tu te relèves, tu continues, tu fais un petit bout. C'est vraiment juste de ne pas lâcher.
C'est ça, oui. Ben, en fait, il y a dans vos commentaires, il y a quelques minutes, on peut passer une heure assis, Mais si on marche pendant 5 minutes,
ça renverse les effets.
Ça, c'est, je trouve ça très, très intéressant.
Absolument. Il faut se trouver des excuses. Donc, si vous êtes au bureau, vous vous levez, vous faites le tour, vous allez voir un collègue, allez à la machine à eau. Mais oui, un petit 5 minutes à toutes les heures, ça fait une grosse différence.
Y a-t-il d'autres facteurs qui font que la marche lente est un exercice pour tous?
Oui, les scientifiques du sport suggèrent que c'est la persévérance qui est essentielle. Donc, il importe de rester mobile. Qu'on soit enceinte, âgée, en surpoids ou en convalescence, presque tout le monde peut se permettre de marcher lentement, à condition d'adapter son style. Une étude a suivi 36 000 adultes de plus de 40 ans pendant près de 6 ans, alors qu'une équipe de scientifiques enregistrait la quantité, le type et la fréquence des exercices de chaque individu. Et les résultats ont démontré que tout niveau d'activité, quelle que soit son intensité, était associé à un risque de décès considérablement réduit. Tout ce qu'il fallait, c'était une marche lente par jour.
Alors, Michel, de toutes ces études, que peut-on conclure?
Eh bien, en conclusion, il n'est jamais trop tard pour intégrer l'activité physique dans notre quotidien. Même une simple marche lente, pratiquée régulièrement, peut avoir des effets significatifs sur la longévité et la santé globale. Chaque pas compte pour améliorer votre bien-être, peu importe l'intensité de l'effort. Alors prenez le temps de bouger chaque jour, même doucement. Votre corps vous en remerciera.
J'adore, votre corps vous en remerciera. Oui. Formidable. Alors Michel, je rappelle que l'enregistrement, de même que le texte de votre chronique, sont disponibles sur le site jemarchepartout.com sous l'onglet Radio VM. Alors Michel, encore une fois, merci beaucoup. Et j'ai envie de dire bonne marche lente.
Oui, Denis, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Merci beaucoup à nos invités, Noémie Ariette, Yves Terra et Michel Cousinat-Baudet. Merci également à nos deux merveilleux collaborateurs à la technique, Lisandre Duplé et Valérian Fournier. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de Nicolas Vanier. Marcher, c'est avancer avec lenteur et respect, sans oublier de penser. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.